très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer qu'il y a dans nos villes, dans nos campagnes, nos entreprises, nos associations, des femmes et des hommes qui innovent et qui créent, qui font perdurer aussi nos savoir-faire à la française. Gros plan aujourd'hui sur le linge de maison, car nous sommes en janvier et c'est le mois du blanc. Vous allez voir qu'entre tradition et modernité, c'est un secteur qui sait aussi se réinventer. Elle a été créée au XVIIe siècle et compte aujourd'hui encore 300 salariés. Mariage Frères et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis les trophées de l'avenir d'Europe 1 ont lieu dans 33 jours maintenant. Aujourd'hui, gros plan sur notre environnement. La solution, c'est les petits bidons. Une jeune pousse qui veut laver au naturel. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, on vous attend. Vous pouvez décrocher votre téléphone et composer le numéro du standard d'Europe 1. Venez nous dire, par exemple, Anissa, si vous aussi, au mois de janvier, vous faites les boutiques pour acheter des draps, des torchons ou encore des nappes.
Et venez nous dire si vous donnez priorité aux marques françaises dans vos choix de draps, de nappes, de chiffons, de torchons. Ça se passe dès maintenant au 39-21. Venez poser vos questions aux invités de Raphaël Duchemin, également sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Oui, parce que c'est une tradition en France, hein, c'est le mois du blanc. On va voir avec nos invités que le linge de maison a encore de beaux jours devant lui. Pour les accueillir à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Gibault, fondateur du Slip français. Bonjour Guillaume.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être là. Alors on va peut-être commencer avec vous tout simplement. Elisabeth, je voudrais que vous nous expliquiez d'où vient ce fameux mois du blanc. Qui en a eu l'idée?
Aristide Boussicot, ça vous dit quelque chose?
Oui.
C'est le fondateur du premier grand magasin parisien au Bon Marché. Ça s'appelait comme ça auparavant. Maintenant, ça s'appelle le Bon Marché. Et alors, donc, c'est une tradition qui est typiquement française et c'est la plus vieille opération commerciale de France. Donc, Aristide Boussicot, lui, a eu l'idée de remplir les rayons qui étaient vides après les fêtes de Noël. On était au mois de janvier. À l'époque, il n'y avait pas le réchauffement climatique. Il neigeait à Paris au mois de janvier. Enfin, on est en 1800, fin du 19e siècle. Et donc, il s'est dit, je vais remplir les rayons vides après les fêtes de Noël. Mmh. Le linge de maison est forcément blanc, il n'est pas imprimé. Et le succès est énorme, à tel point que l'idée d'une semaine du blanc a été reprise par les supermarchés lors de leur création au début des années 60. C'est un peu l'ancêtre des soldes, finalement. Les soldes sont arrivés en 1906. Là, on est à la fin. Et c'est la première fois que l'on affichait des prix sur les produits, parce qu'au 19e siècle, on marchandait. Oui. On n'achetait pas, on ne donnait pas de l'argent. Et donc, Boussicot invente cette exposition du blanc en janvier.
Alors, c'est devenu entre-temps le mois du blanc. Et quand on parle linge de maison, il y a des acteurs incontournables que tous les Français connaissent. Bonjour Jean-François Birac.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Blanc des Vosges.
Oui.
Alors, c'est vrai que quand on pense textile, c'est une des régions phares, hein, les Vosges. C'est le berceau du textile. Votre famille est d'ailleurs là-bas depuis 5 générations, si j'ai bien compté. Racontez-moi comment est née l'entreprise familiale qui ne s'appelait pas à l'époque Blanc des Vosges.
Non, ça s'appelait. Enfin, l'entreprise d'ailleurs continue à s'appeler François Hans, du nom de mon arrière-grand-oncle. Tout commence en 1843, donc ça fait un peu plus de 175 ans. À l'époque, ce sont les femmes qui disposent d'un métier à tisser manuel dans les fermes des environs dans les Vosges. Les maris sont au champ. Et les femmes, elles, vont tisser de la toile. Et puis, évidemment, les choses évoluent un tout petit peu. Fin du 19e siècle, François Hans, donc mon arrière-grand-oncle, crée le premier tissage mécanique dans la région de Gérardmer. Et voilà, les choses avancent tout doucement. On a effectivement dans les Vosges ce qu'on appelait le blanchiment sur prêt.
Oui.
C'était une technique tout à fait spécifique pour obtenir, a priori, d'après ce qu'on en dit, le plus beau blanc de France, qui combinait en fait une technique avec la lumière de la lune et l'eau qui était particulièrement de très forte qualité. Et donc on étendait le linge écru sur les prés dans les Vosges.
Des environs,
et donc,
oui.
Et voilà. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les écrus devenaient blancs et devenaient très, très joliment blancs. Alors effectivement, les choses ont un peu changé depuis.
Oui, évidemment. Comment est-ce qu'on fait justement quand on a cette tradition-là pour la maintenir vivace et la faire aussi évoluer avec la modernité? Comment est-ce que vous avez réussi à allier les deux?
Alors, Avec Blanc des Vosges, nous avons continué à garder effectivement cet héritage, cette
Blanc
tradition.
Blanc des Vosges, c'est 2008.
Blanc des Vosges, création, c'est 2008, effectivement. Donc depuis de 1843 à 2008, la société s'appelle François Hans et nous vendons des produits sous la marque François Hans. Nous créons Blanc des Vosges en 2008.
Une start-up finalement, Blanc des Vosges.
Bah, c'est presque une start-up, ouais. Ça fait quand même maintenant 10 ans. Effectivement, entre-temps, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 4. Donc la chose était...
C'est une start-up, vous le confirmez.
Effectivement, plutôt réussie. Tout simplement pourquoi, effectivement, on veut mettre du marketing à ce moment-là. François Hans était... particulièrement reconnu auprès du professionnel parce qu'il était un acteur incontournable effectivement de la fabrication du linge de lit mais il n'y avait pas de reconnaissance auprès du grand public.
Il fallait démocratiser
lancer une nouvelle marque qui disait exactement ce qu'elle avait à dire, d'où la création de Blanc des Vosges.
Le coach.
Et justement on fait le lien avec Émile Zola, le bon marché, le blanc, on se projette dans un univers qu'on imagine bien, mais les canaux de distribution ont beaucoup bougé. Cette dépendance aux grands magasins, aux canaux de distribution, quand on a une entreprise familiale qu'il faut faire durer dans le temps, comment est-ce que vous avez géré ça avec
la
concurrence ?
On veut un petit peu dépoussiérer tout ça. Effectivement, on est une société qui existe depuis très longtemps, 175 ans, on vient de le dire, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas une société dynamique. Quelque part, on a beaucoup fait évoluer les choses, c'est un très vieux secteur, le textile de maison, et on a besoin effectivement de faire bouger pas mal les choses. Donc maintenant, Blanc des Vosges est disponible évidemment auprès de 1500 distributeurs en France.
Mais vous avez aussi des boutiques en nom propre.
Nous avons créé donc justement depuis 2008 une quinzaine de boutiques sous la marque enseigne Blanc des Vosges, justement pour faire rentrer un peu la marque dans la rue, c'était aussi important. Et puis on s'est spécialisé également sur le web.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette volonté de démocratiser, de se moderniser. Et puis, en même temps, il y a ce savoir-faire hein, qui est quand même connu, reconnu. Il y a le repassage fait main, les finitions aussi qui sont importantes. On pense aux jours perforés. Alors, on va peut-être expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais arrêtez-moi si je me trompe, hein, c'est en bordure justement du drap.
Voilà.
Les petits trous qu'on voit parfois sous le liseré.
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est évidemment un vrai savoir-faire encore de la marque. Nous avons aujourd'hui à peu près 110 couturières qui sont complètement... qui sont vraiment dédiées à l'univers de notre marque et qui ont un véritable savoir-faire. Ce savoir-faire, on essaye presque tous les ans, j'irais, de pouvoir le développer. On a souvent d'ailleurs les mères et les femmes en fabrication. Voilà, on apporte, notre vraie volonté, c'est d'apporter, de montrer ce savoir-faire à l'ensemble de nos consommateurs. La stratégie de développement de la marque, c'est quand même aussi de continuer de fabriquer un produit 100% français.
Alors, ça veut dire que vos tissus sont tous issus de France ?
Nous travaillons avec l'essentiel, avec beaucoup de... Alors, nous sommes confectionneurs à la base. Hein. Blanc des Vosges gère la confection à 100%, mais nous travaillons avec des tisseurs, des ennoblisseurs qui sont également dans les Vosges. Il y a toute une filière qui est encore importante dans les Vosges, et ce qui fait d'ailleurs la renommée de l'univers du linge de maison dans les Vosges. Et donc, nous mettons en valeur l'ensemble de la filière, d'ailleurs au travers de certains labels, comme le label Vosgère Textile qu'on a créé il y a très peu de temps.
Elisabeth, vous nous dites un petit peu combien ça représente le marché du linge de maison
Alors, c'est un marché plutôt stable, hein, il est estimé à plus de 2,5 milliards d'euros. Les fabricants n'ont bénéficié que partiellement de l'intérêt croissant hein, des Français pour la décoration d'intérieur qui, elle, a beaucoup plus augmenté depuis quelques années. La distribution de linge de maison comme le linge de toilettes et le linge de table est aujourd'hui multicanal, c'est-à-dire qu'il est en magasin et sur Internet. Les enseignes de la grande distribution proposent souvent leurs propres marques. Elles ont beaucoup progressé. La vente en ligne aussi, hein, c'est 26% des ventes. Elle reste importante grâce à toutes les grandes marques qui proposent, elles aussi, leur propre site de vente en ligne. Et en France, on a beaucoup d'entreprises leaders du marché. On a Descamps, la Compagnie Française, Linvosges, Frémaux, Delorme ou encore le groupe VDS.
On reste ensemble, on continue à parler de ce linge de maison aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
On va quitter la chambre et on va passer à table, direction l'Alsace, pour découvrir Beauvillé. A tout de suite.
Depuis de nombreuses années maintenant, le mois de janvier, le mois du blanc, c'est une tradition en France. Et grâce à vous, Raphaël Duchemin, grâce à vos invités, nous découvrons les belles réussites des spécialistes du linge de maison en France. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Nous avons déjà des questions hein, sur Twitter.
Oui.
Continuez, hashtag Europe 1 sur Twitter. Et puis vous pouvez nous appeler, réagir, poser vos questions au 3921, c'est le standard d'Europe 1.
C'est encore une histoire de famille, tiens, et de territoire qu'on va vous raconter, car Beauvillé, c'est 1893, c'est l'Alsace, le village de Ribeauvillé, bien sûr. Bonjour Jean-Michel Borin.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du directoire du groupe MIE, Beauvillé donc, la marque. Votre spécialité, c'est l'impression. Quand on a à la maison vos textiles, et on en a quelques-uns d'ailleurs ici dans le studio d'Europe 1, si vous nous suivez sur europe1.fr, vous allez pouvoir les découvrir. On a des nappes, des torchons colorés avec des dessins. Et tout commence avec Charles-Émile Steiner, parce qu'il est teinturier et c'est lui qui va lancer ce qu'est aujourd'hui Beauvillé.
Oui, c'est ça. C'est d'abord, merci beaucoup d'inviter quelqu'un qui ne fait pas de blanc, mais qui ne fait que de la couleur à une émission sur le blanc.
C'est pareil, c'est le linge de maison aujourd'hui, le blanc. Vous êtes d'accord avec moi?
En tout cas, pour nous, c'est la base de départ. C'est la couleur de notre tissu quand il arrive dans nos usines. Effectivement, l'entreprise a été créée en 1839. Nous fêtons cette année nos 180 ans. Et la marque Beauvillé fête ses 30 ans cette année. C'est une longue histoire. Nous avons plusieurs métiers. Notre métier de base, c'est MIE, comme vous le rappeliez. Nous sommes imprimeurs à façon pour d'autres. C'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Nous imprimons pour d'autres. Nous avons l'outil et nous fabriquons un produit fini, voire un produit semi-fini.
Ça veut dire que vous êtes spécialisé dans le dessin. C'est ça qui a fait la force au départ de cette maison.
Alors, à l'origine, l'entreprise était une teinturerie et est devenue une entreprise d'impression à la planche dans les années 1870.
Planche en bois, hein, à l'époque.
Planche en bois, tout à fait. Puis au cadre plat. Et nous contrôlons l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que nous achetons un tissu brut et nous allons jusqu'au produit terminé. Nous avons nos propres stylistes qui créent leurs dessins, mais nous pouvons aussi, et bien souvent, imprimer des dessins pour d'autres qui ont eux-mêmes leurs ateliers de création.
Alors, ça va rester dans la famille, famille Steiner, un moment, mais cette famille-là, elle va avoir des difficultés pour gérer l'entreprise. Du coup, c'est votre père qui arrive et qui la redresse. On est dans les environs des années 70. Il va avoir d'ailleurs pas mal d'ennuis avec la famille. Il est licencié et finalement, au bout du compte, l'entreprise dépose le bilan et c'est lui qui va la racheter.
Oui, c'est une aventure extraordinaire, en tout cas humaine. En 1967, l'entreprise qui s'appelait Steiner a eu des problèmes récurrents de gestion et mon père a été placé là par les banques. Mon père, à l'époque, dirigeait une grosse filature du groupe Boussac et les banquiers ont décidé de mettre quelqu'un à eux pour redresser l'entreprise, ce qu'il a magnifiquement réussi à faire. Et en 1978, il s'est rendu compte qu'il y avait des irrégularités de comptabilité et d'autres irrégularités. Et placé là par les banques, il s'est senti obligé d'aller les avertir. Il a été licencié ad nutum pour faute grave. Il a fait un procès pour licenciement abusif qu'il a gagné largement. Et 18 mois après son départ, l'entreprise dépose son bilan, les salariés se mettent en grève. Et mon père propose avec d'autres un plan de reprise parmi 4 autres plans de reprise.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe quel plan de reprise parce qu'il est assez inventif quand même. Il propose un capital à 3/3, 1/3 pour la famille, lui et votre mère, 1/3 pour les clients et 1/3 pour les salariés.
Alors, en 1979, c'est particulièrement original.
Ouais.
En associant le personnel qui venait de...
Oui,
tout à fait. Mon père était un visionnaire et en associant les salariés, d'une part, il les remerciait parce qu'il s'était mis en grève et s'était mis de son côté pour la reprise. En y associant les clients, il assurait la pérennité des commandes. Et comme je sors d'un petit milieu et qu'il n'avait surtout, c'était ça le problème à l'origine, pas les moyens de racheter le tout, il n'a pris qu'un tiers du capital en vendant la maison familiale et en s'endettant et en faisant, comme on dit au poker, tapis.
Que dit notre coach ?
Le coach, il a une question sur un peu vos deux métiers. D'un côté, vous êtes fabricant pour d'autres et de l'autre, vous avez une marque. Comment est-ce que vous gérez ça dans le temps, stratégiquement ? Parce que finalement, vous êtes un peu concurrent de vos clients quelque part. Est-ce qu'on vient vous chatouiller là-dessus ? Est-ce que pour vous, c'est important d'équilibrer les différents...
Alors, lorsque j'ai rejoint l'entreprise, on n'était que façonnier. Et ça a été le deal que m'a donné mon père de faire marcher l'outil, de développer le chiffre d'affaires, de nous rendre indépendants de nos clients et surtout de ne pas devenir concurrents de nos clients, ce qui est aujourd'hui le cas. Nous sommes façonniers pour des entreprises qui font du tissu d'ameublement, qui font du meuble, qui font des tissus destinés aux meubles. Au rideau, mais pas à la nappe et pas à la cuisine.
Vous avez bien séparé les deux univers.
On s'est complètement séparés, bien volontairement.
C'est
nous
bien pensé,
sommes complémentaires.
Et ce qui est intéressant que vous ne dites pas, c'est que vous, vous êtes entré dans l'entreprise au SMIC, en contrat emploi solidarité. Et ça, c'était fait exprès. C'était justement pour vous apprendre à gravir les différents échelons.
C'était une obligation. L'entreprise n'avait pas un centime. Et comme mon père m'a proposé de le rejoindre et qu'on s'entendait divinement bien, peu importait les conditions financières, le deal était intéressant, le job était intéressant. Et donc, je suis rentré dans l'entreprise, effectivement, au SMIC, dans la mesure où, à l'époque, il y avait une mesure gouvernementale qui s'appelait emploi solidarité pour un emploi disparu, un nouvel emploi aux mêmes conditions et pendant 18 mois, hors charge sociale pour la totalité de l'entreprise.
Aujourd'hui, votre entreprise fonctionne bien, elle est connue, reconnue en France, à l'étranger aussi. C'est quoi le petit plus pour vous ?
C'est l'entreprise elle-même,
oui.
La culture d'entreprise. On a des salariés qui ont vécu un dépôt de bilan, qui sont actionnaires encore, minoritaires, mais qui le sont. Qui croient dans leur entreprise et à chaque niveau, que ce soit aussi bien pour Beauvillé ou que pour notre marque MIE, les gens, c'est leur société. Ils y tiennent, on est en Alsace, on aime le travail bien fait. Les gens sont impliqués, pas seulement du fait d'un apport financier, mais parce que je pense que le tremblement de terre que nous avons vécu au moment du dépôt de bilan a laissé des marques. Et qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le pont et du gouvernail à la salle des machines, tout le monde est concerné, tout le monde est impliqué.
Tout le monde est dans le même bateau pour faire avancer Beauvillé. On reste ensemble, on continue à parler linge de maison aujourd'hui sur Europe 1.
Et il est 13h19.
Europe 1.
À côté des historiques, il y a aujourd'hui de nouvelles marques qui disruptent le marché. C'est le cas de Bonsoir avec un S. À tout de suite sur Europe 1.
Le mois de janvier, c'est le mois du blanc et aujourd'hui la France bouge. Avec vos invités Raphaël Duchemin, nous découvrons les belles réussites des spécialistes du linge de maison en France. Vous pouvez réagir à cette émission, vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1 et au standard d'Europe 1, n'hésitez pas. On vous écoutera dans un instant au 39-21.
Avec toujours à mes côtés Elisabeth Assayag et notre coach aujourd'hui, le fondateur du Slip français, c'est Guillaume Gibault. Nos invités sont là aussi, Jean-François Birac pour Blanc des Vosges, Jean-Michel Borin, président du directoire du groupe MIE Beauvillé, le linge de table. Et puis je suis ravie d'accueillir un troisième invité qui est avec nous, qui est Nicolas Morchel. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir, voilà, je dis bonsoir parce que c'est le nom de la marque. Exactement. Avec un S, on est d'accord. Bonsoir, c'est une histoire d'amour pour le sommeil, hein, j'ai envie de dire. Exactement. C'est comme ça que ça démarre.
C'est un peu comme ça que ça démarre. Moi, j'ai un avantage dans la vie quand j'ai créé Bonsoir, c'est que j'adore dormir.
Bon, vous n'êtes pas le seul.
Voilà. Et
passe du temps, vous me direz. En principe, la moitié de notre vie.
Un tiers.
Presque.
Un tiers de notre vie et... Donc, je vais vous raconter une histoire. Bonsoir. L'idée de Bonsoir, en fait, elle a commencé quand j'ai emménagé dans un nouvel appartement avec ma petite famille. Mm-hmm. Et on a acheté une super literie. Et j'ouvre le placard de mes draps. Et là, je découvre, en fait, que nos draps, ils n'étaient pas au niveau de notre matelas. Donc, premier réflexe, c'est qu'on va dans les grands magasins, et on cherchait, en fait, du linge de lit de très bonne qualité. Et on voyait que les prix avoisinaient entre 400 et 500 euros. Pour une parure complète, donc thé d'oreiller, drap housse et housse de couette. Et donc c'était beaucoup trop cher et on n'avait pas envie de dépenser ce budget-là. On va sur Internet et là, un peu le même constat, on ne trouve pas notre bonheur. Et donc c'est un peu comme ça que Bonsoir est né. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire.
Alors vous créez Bonsoir en décembre 2017, une marque que vous vendez uniquement d'ailleurs, il faut le préciser, sur Internet. Mm-hmm. Pourquoi les draps ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé, vous auriez pu vous intéresser aussi à tout l'univers du lit ? Pourquoi uniquement les draps ?
Parce que c'est un marché, je pense, qui est assez traditionnel et qui avait besoin, je pense, d'être un peu bouleversé. On a tous besoin de draps. Et clairement, moi, jamais je me suis dit « Ah, chouette, je vais aller acheter des draps. Mmh. » Donc, en gros, j'ai voulu un petit peu bouleverser ce marché en créant une marque distribuée uniquement sur Internet et en proposant un des meilleurs rapports qualité-prix avec un confort incroyable, une énorme, une superbe douceur et fabriquée en France.
Oui, alors du coup, vous êtes allé chercher évidemment les meilleurs, c'est-à-dire vous êtes allé dans les Vosges. Mm-hmm. Comment est-ce que vous avez trouvé les bons interlocuteurs ?
Bah, écoutez, moi, j'y connaissais pas grand-chose.
Oui,
au
vous
début.
N'étiez pas du tout dans le textile.
Pas du tout dans le secteur. Moi, j'ai travaillé 10 ans chez un pionnier du e-commerce français. La première chose qu'on fait, c'est qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre ? Et moi, je voulais atteindre une qualité qui ressemblait à un hôtel de luxe. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Internet, on se déplace sur des salons. Moi, j'ai fait appel à une quarantaine de fournisseurs. Chez moi, ça ressemblait un peu à une blanchisserie à la maison, tellement il y avait draps partout. On organisait des touchés à l'aveugle. Je voulais aussi une confection qui était aussi digne des palaces et avec une très grande qualité. Et donc, naturellement, on s'est tourné vers le berceau du linge de lit qui se trouve dans les Vosges depuis, je crois, 200 ans.
Oui, c'est ça. Hein. Mes interlocuteurs. On est d'accord, hein, 200 ans. Guillaume, le coach ?
Alors, le coach, il a l'impression de loin comme ça que Bonsoir a pas mal de points communs avec la stratégie du slip français, qui est une stratégie avec un mot barbare qui est américain, qui est DNVB, Digital Native Vertical Brand, qui est gros usage des réseaux sociaux, communauté très forte, et qui effectivement dépoussière pas mal de choses. Est-ce que c'est une stratégie que tu mets en place ? Est-ce que tu peux nous en dire plus et expliquer ? Parce que je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent.
Bien sûr.
Pour moi, c'est aujourd'hui la bonne stratégie pour lancer des marques et faire une place dans un marché. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est le manuel que tu es en train de suivre ?
Exactement. Donc, on a plusieurs canaux de communication. On a la presse. Donc, déjà, merci de nous recevoir aujourd'hui. Et un de nos canaux privilégiés, ce sont les réseaux sociaux, majoritairement Facebook et Instagram. Mais en gros, sur Facebook et Instagram, c'est un peu notre... Instagram est aujourd'hui devenu une carte de visite d'une marque. Aujourd'hui, le premier réflexe, quand on est entre amis ou en famille et qu'on parle d'une nouvelle marque, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur la page Instagram de la marque. Et donc, en fait, elle respire tout l'ADN de la marque et tout l'univers et toutes les valeurs. Et donc, Bonsoir, on s'en sert un petit peu pour, du coup, transmettre aussi un petit côté décalé et en faire aussi une communication auprès de nos clients.
Alors, on me dit dans le casque Instagram, il faut peut-être préciser que c'est un réseau social basé sur la photo. C'est important parce que certains n'y sont pas quand même. Elisabeth.
Donc, vous mettez les moyens financiers justement pour faire des photos, pour imposer un univers sur Instagram puisque vous communiquez essentiellement à travers ce média ?
Exactement. Après, Instagram... à l'avantage qu'il ne faut pas que tout soit parfait. Sur Instagram, on prend de l'inspiration.
Donc
sur
vous mettez des gens qui se réveillent dans des draps.
Exactement. On a aussi pas mal de photos de nos clients qui nous envoient des photos et qu'on adore publier. Et surtout, dans leurs commentaires, ils nous disent « Oh là là, mais c'est l'hôtel à la maison, on ne peut plus se passer nos bonsoirs, etc. etc. » Et du coup, c'est un peu nos clients sur Instagram et sur Facebook sont en fait notre meilleure publicité.
Oui, c'est vos ambassadeurs.
Ce sont nos ambassadeurs.
Vous en avez vendu beaucoup des parures parce que vous êtes tout nouveau sur le marché. Hein. Je le disais tout à l'heure, décembre 2017. Combien de parures l'année dernière ?
On a plusieurs milliers de parures.
Plusieurs milliers de parures. Voilà. Et 2019, quel est l'objectif ?
On veut quadrupler.
Quadrupler. Vous n'allez pas nous donner les chiffres.
Non, pas les chiffres exacts. Mais en tout cas, on réalise entre 40 et 50% de croissance pratiquement tous les mois.
Prix moyen d'une parure pour un lit de place ?
Le prix est de entre 135 et 200 euros pour une parure complète en percale ou en satin de coton, ce qui équivaut à peu près à 2 à 3 fois moins cher que vous pouvez trouver dans les canaux de distribution.
Vous confirmez ou vous êtes aussi dans cet ordre-là ?
Nous sommes, si vous voulez, à peu près entre 150 et 350 euros.
On
peut aller très très loin sur Blanc des Vosges. Oui.
On continue à parler linge de maison dans un instant et on vous attend toujours, bien sûr, sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
39-21, venez poser vos questions à nos invités. On attend aussi, évidemment, vos témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. A tout de suite.
Le mois de janvier, c'est le mois du blanc. On découvre les acteurs français du secteur grâce à vous, Raphaël Duchemin. Et on écoute toutes vos questions, vos témoignages et vos réactions au 39-21.
avec Guillaume Gibault, notre coach aujourd'hui avec Elisabeth Assayag, Jean-François Birac, PDG de Blanc des Vosges, Nicolas Marchel, fondateur de Bonsoir, et Jean-Michel Borin, président de Beauvillé et du groupe MIE. J'ai envie de me tourner vers vous, Elisabeth, et de vous demander, il y a quand même énormément de monde sur ce secteur du linge.
Il y en a d'autres, j'en ai retenu deux qui sont assez chics, assez belles. Vous avez Porto, hein, une maison de luxe fondée en 1920. Là, c'est du linge de maison exceptionnel. Hein. Avec de la fabrication, ils font du coton chaud pour l'hiver et du coton un peu plus frais pour l'été. Hein. Vous avez des draps double face comme ça. Ce sont les tout premiers, eux, à lancer des collections de draps imprimés. À Cambrai, l'atelier tisse le fameux voile de coton. Les prix sont extrêmement élevés. On reste dans des draps de luxe. Autre maison française de linge de maison, le Jacquard français que nous avions reçu
dans
la France Bouge. Eux, ils existent depuis 1888, 130 salariés, 100% des créations en France, dans leur atelier, dans le nord-est de la France. Plus de 2000 revendeurs à travers le monde.
Il y a beaucoup d'acteurs. Et on nous parle aussi d'ailleurs de l'Invosges, hein, notamment l'Invosges, sur Twitter. Il y a Marisette qui nous dit c'est magnifique aussi la texture, les imprimés. Quoique cette année, il n'y avait pas forcément ce qui lui plaisait à Marisette, manifestement. Voilà, il faut se faire une cagnotte, dit-elle, une super cagnotte pour ce magnifique linge de maison. Vous avez le sentiment, tous les trois d'ailleurs, que les choses sont en train de bouger dans ce domaine, dans ce secteur du linge de maison. On a parlé énormément d'entreprises qui fermaient, notamment dans les Vosges, en matière de textile. Il y a comme un sentiment de renouveau.
Oui, moi je pense que celles qui sont restées, en tout cas, ont su s'adapter, se réorganiser. Parce qu'effectivement, l'industrie textile a beaucoup souffert dans les Vosges, comme en France d'ailleurs, d'une manière générale, sur les 30 dernières années. Mais les marques qui sont restées ont réussi à se réorganiser, se développer, effectivement communiquer avec de nouveaux médias, se remettre en question. Et finalement, c'est grâce à ça. Elles n'ont par contre jamais... Elles n'ont jamais voulu, en tout cas, garder, évoluer dans leur savoir-faire. Le savoir-faire est toujours resté, mais elles ont voulu chercher à se développer via de nouveaux systèmes de distribution et se remettre en question.
Je crois qu'on a des appels. Il y a Sandrine, notamment, qui nous appelle pour nous parler de l'Invosges. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Mais je vous en prie, Raphaël, bonjour. Moi j'ai téléphoné parce que c'est vrai que nous on est assez fidèles à la Vosges. Voilà. Chaque fois que j'ai une naissance, moi j'ai l'habitude, ça je dis, j'aime acheter français, moi. Voilà. Tout ce que je peux trouver en produits français, je préfère acheter comme ça. Moi je chez l'Invaux, j'aime bien acheter leur petit cadeau de naissance. Mmh. Voilà, parce qu'on peut broder un petit prénom quand on l'a d'avance, on peut offrir une belle sortie de bain, on peut offrir un joli petit peignoir. Ils ont des ensembles naissance qui sont magnifiques. C'est doux, c'est agréable. Moi, je prends mon linge de lit chez l'Invosges.
Oui, c'est une tradition chez vous, Sandrine, manifestement. Restez en ligne. Il y a Jean-Philippe aussi qui nous a appelé. Et je crois que Jean-Philippe, lui, c'est un fan de Beauvillé. Bonjour, Jean-Philippe.
Bonjour à tous.
Merci d'être
voilà,
avec nous.
Voilà, je voulais apporter mon témoignage. J'ai habité un certain nombre d'années l'Alsace. Et c'est vrai que ça a été une véritable découverte de voir déjà le secteur industriel qui est riche, et d'autre part de voir la qualité des produits que l'on peut trouver chez Beauvillé.
Oui.
Et la qualité aussi de l'accueil. Je tire vraiment mon chapeau et ma révérence au personnel qui sont là pour vendre, mais qui vendent un produit de qualité qui est exceptionnel, qui est historique. Alors, nous avons acquis évidemment des tissus pour faire des rideaux, mais je pense particulièrement à une pièce qui s'appelle l'Arbre de Vie, qui est un produit exceptionnel, qui représente, on va dire, un peu un arbre hindou, mais qui est vraiment un produit de très grande qualité qui vient, on va dire, embellir votre salon, votre salle à manger, qui peut être mis dans une entrée. Et j'ai envie de dire que c'est un produit qui est assez simple, assez accessible, pas très onéreux, mais on s'aperçoit tout de suite de la qualité du travail et ensuite de la mise en valeur de ce travail par un personnel qui demeure très humble et très simple. Et je crois que c'est surtout ça qui est à relever, c'est qu'on a vraiment affaire à des artisans avant de faire un très grand professionnel. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Philippe pour votre témoignage au 3921. Merci aussi à Sandrine qui nous a appelé. On a une question et j'aimerais bien vous la poser qui nous vient d'Olivier, Anissa.
Oui, sur Twitter effectivement, il dit à propos du blanc des Vosges, est-ce qu'il existe une charte d'approvisionnement du coton? D'où vient-il? Est-il bio? Et quel est son bilan environnemental?
Alors, qui a la réponse? Jean-François Birac.
Oui, moi je peux vous répondre par rapport à la marque Blanc des Vosges.
Oui,
je ne veux pas
sûr.
Vous répondre par rapport à l'ensemble des intervenants sur le marché. Alors, je pense que votre auditeur la confond pas mal de petites choses. Le fait, par exemple, que le coton soit bio, ça n'est pas forcément nécessaire qu'il vienne des Vosges pour qu'il soit bio.
Ça, c'est une... Non, il vous demande s'il est bio, voilà. Si le coton que vous utilisez est bio ou pas.
Pour Blanc des Vosges, le coton n'est pas bio.
Et d'où il vient ?
Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le coton, aujourd'hui, il n'existe pas en France. Il n'y a pas de, il n'y a pas du tout de filière.
Il y en a un à Montréal, en Gers.
Oui,
mais... qui ont réussi à faire pousser cet été les premiers plants de coton. Enfin, les premiers
bon, ça va venir, quoi. C'est, alors, en, c'est en train d'être
lancé. Ils ont quoi faire 80 polos, je crois. Donc,
ah, oui, bon, ça va être un peu problématique pour nous. On fait 1 200 000 articles par an.
C'est ça.
Mais donc, non, nous, aujourd'hui, effectivement, on a une charte chez Blanc des Vosges dans la réalisation et dans l'approvisionnement de nos cotons. Nos cotons viennent systématiquement des États-Unis. Parce qu'ils sont de bonne qualité, parce qu'ils ils sont doux et ils ont ce qu'on appelle une fibre très longue, ce qui nous permet de faire des supports, des satins et notamment des produits extrêmement doux en qualité.
Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose.
Oui, pour Beauvillé, nous sommes entreprise du patrimoine vivant, donc quelque part il y a une filière qui est respectée. En ce qui nous concerne, nous achetons nos écrus, nous n'achetons pas de fil, nous achetons un tissu déjà tissé. Mais nos écrus viennent des Vosges, en particulier du Nord également. Et nous fabriquons 100% français. C'est un tissu tissé en France, imprimé en France, cousu en France, revendu en France. Et nos impôts sont payés en France aussi.
Oui, et même question pour vous chez Bonsoir. Hein, du coton qui vient probablement d'ailleurs, mais qui est tissé ici en France.
Il vient d'ailleurs. Notre tissu, il vient du Moyen-Orient. Et en fait, on a voulu... réunir les meilleurs des deux mondes. Enfin, en tout cas, on a voulu faire le produit avec la meilleure qualité. Du coup, il vient de cette région-là. Et après, on le fait fabriquer et confectionner dans les Vosges.
Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui nous parler linge de maison sur Europe 1. Merci.
Oui, il est 13h38.
Europe 1.
Elle existe depuis le XVIIe siècle. Mariage Frères est spécialiste du thé. Et c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge sur Europe 1, c'est jusqu'à 14h avec les entreprises françaises qui vont bien. Et dans un instant, Raphaël Duchemin vous propose de prendre le thé avec elle et ses invités.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Angèle et son frère Romeo Elvis sur Europe 1, tout oublié.
Europe 1.
La France bouge tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours Raphaël Duchemin vous propose de découvrir une entreprise française qui va bien, celle d'aujourd'hui.
eh bien, un goût de thé.
Oui, cette entreprise, c'est Mariage Frères, spécialiste du thé, effectivement, Anissa, depuis la fin du 17e. Bonjour Franck Dessin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir. À vos côtés,
Elisabeth Assayag, qui m'accompagne, et notre coach, Guillaume Gibault, fondateur du Slip français. Vous êtes, vous, le directeur général de Mariage Frères, qui restait dans la famille Mariage jusqu'en 1984, dites-moi. Racontez-moi comment a démarré leur aventure. Comment ils sont devenus finalement des passeurs de thé ?
La famille Mariage, oui, c'est l'histoire d'une passion et la volonté de transmettre, et surtout la volonté d'apprendre par la culture et par le voyage. Et quand on a toutes ces passions-là, on a envie de transmettre ces passions. Et cette passion du thé de la famille Mariage nous a été transmise directement à nous, et nous avons appris tout jeune et tout petit chez eux pour devenir ce qui nous sommes aujourd'hui.
Oui, parce que la famille travaillait déjà à l'époque avec des planteurs, mais emballait, faisait ses compositions. C'est aussi ça que vous avez repris à votre compte, vous, aujourd'hui.
Oui, alors pour nous, il est extrêmement important, après avoir passé énormément de temps et dans les plantations à travailler avec les planteurs pour apporter de nouveaux goûts et créer de nouveautés, de les emballer le mieux possible. Donc c'est très important pour nous, l'aspect visuel et l'aspect du goût vont ensemble et c'est indissociable et c'est le travail que nous faisons. Oui.
Vous avez dans vos archives des petites pépites. Je crois que Proust, par exemple, buvait du thé mariage.
Oui, bien sûr, Proust buvait du thé mariage parce qu'à l'époque, nous étions le fournisseur exclusif d'une maison qui s'appelait À la Porte Chinoise, qui était une maison très à la mode à l'époque de Proust où tout le monde allait, à la grande époque des chinoiseries, aller chercher son thé. Et bien sûr, Proust, et pas que Proust, parce que nous étions aussi fournisseurs exclusifs d'une autre maison qui s'appelait Grondard et qui était fournisseur de la femme de Napoléon au Second Empire, donc l'impératrice Eugénie. Voilà,
vous arrivez dans les années 80 et vous revenez finalement à la méthode ancestrale, hein, j'ai envie de dire, qui a fait véritablement la renommée des thés Mariage Frères.
La méthode ancestrale, c'est s'assurer à 100% d'avoir le meilleur du meilleur à tous les niveaux. Et une fois qu'on s'assure de ça dans la plantation, à travailler main dans la main avec les planteurs, on peut venir en France et apporter, et ensuite, depuis la France, partir vers le monde entier. C'est ce que nous faisons. Oui.
Franck Dessin, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure-là ?
Moi, je suis né à côté, pas loin des plantations de thé. J'ai passé mon enfance à quelques kilomètres des plantations de thé en Afrique. Et en plus, j'ai des lointaines origines asiatiques. Qui fait que, je ne sais pas si c'est dans les gènes, je ne crois pas trop, mais non, c'est juste la passion d'avoir découvert à un moment l'entreprise Mariage Frères, qui était une caverne d'Ali Baba absolument fantastique. Et c'était impossible d'être insensible à cette merveille. Et je suis tombé dans la marmite du thé, oui, assez jeune. Oui.
Le coach Guillaume Gibault.
On voit dans votre parcours, dans l'histoire, on imagine un vrai parcours international pour cette marque. C'est un peu aujourd'hui un des fleurons, hein, qu'on se dit que ça représente la France dans le monde. Ouais. Est-ce que c'est vrai dans les chiffres ? Est-ce que c'est une grosse partie de votre chiffre d'affaires à l'international ?
C'est vrai, oui, on a une grosse partie du chiffre d'affaires à l'international. C'est vrai dans les chiffres, on reste une petite entreprise, mais on est étonnamment, avec un autre niveau, l'entreprise du thé qui a une des plus fortes notoriétés dans notre domaine, en marché de niche, ça c'est clair. Et aujourd'hui, à l'étranger, nous sommes la référence internationale du thé français, du goût français du thé, ça c'est sûr.
Oui, vous venez d'ailleurs d'ouvrir à Londres, quand même. Quel pied de nez, à Covent Garden.
Alors nous venons d'ouvrir à Londres le plus grand magasin du Royaume-Uni de thé. Voilà, c'est pas un pied de nez, on est arrivé, c'est l'entente cordiale, avec un grand sourire,
ça, c'est vous
et on
dites.
Souhaite partager. Voilà.
Vous avez une cinquantaine de magasins à travers le monde.
Avons une cinquantaine de magasins qui nous appartiennent tous. Nous n'avons aucune franchise, tout est fait en direct, tout est géré en direct et donc on voyage à travers le monde pour aller chercher du thé et pour nos magasins.
Guillaume ?
On voit beaucoup de nouvelles marques, petites et moins petites, se lancer sur le marché. Comment est-ce que, quand on est historique comme ça, comment on se renouvelle ? Comment est-ce qu'on voit ça d'un œil toujours bienveillant, en se disant que ça pousse vers l'avant ? Ou est-ce que ça commence à...
La concurrence est toujours très positive. Il y a énormément de nouvelles marques et beaucoup d'anciennes marques aussi qui se renouvellent en permanence. Nous avons la chance de travailler avec un produit, le thé, qui est un produit extraordinaire et dont les sources d'inspiration et ce qu'on peut en faire, c'est totalement infini, quoi. Ça n'a pas de limite. Et comme c'est lié à plein de cultures différentes dans le monde et que ça provient de plein de pays différents dans le monde, on a l'impression que tout est encore à faire et qu'on est juste au balbutiement. Donc, oui, il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas de problème pour ça.
J'ai une dernière question pour vous. Combien de références et laquelle est votre coup de cœur ?
On a plus de 1000 références. C'est très difficile. Ce n'est pas une, on ne cherche pas à la quantité, mais c'est juste qu'on est amoureux des thés qu'on rencontre et des thés qu'on construit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a cette quantité de thés-là. Ça bouge. Aujourd'hui, on vient de lancer le thé de l'année du cochon, qui est un clin d'œil plutôt sympathique pour ceux qui ont de l'humour. Une jolie boîte rose, bien entendu, puisque c'est l'année du cochon.
Elle est là avec nous.
Et il y a aussi à côté de vous une boîte qui est un des best-sellers, qui est I Have a Dream, pour tous les gens qui ont des rêves et qui continuent à rêver, et notamment dans le monde du thé. Sans oublier, bien sûr, notre très célèbre Marco Polo de façon internationale.
Pour continuer à voyager, à rêver. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Les thés Mariage Frères, merci d'être
beaucoup.
Venu nous
merci
en parler bien. Aujourd'hui sur merci. Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1.
Il pense à la planète et a créé sa marque de lessive naturelle. Les petits bidons est sélectionné pour les trophées de l'avenir d'Europe 1. Et c'est la solution aujourd'hui. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez, Raphaël Duchemin, la solution du jour et celle d'aujourd'hui va parler à tous les auditeurs et auditrices.
Vous savez que nous continuons à vous présenter toutes les entreprises qui sont sélectionnées pour les trophées de l'avenir, hein, qui auront lieu, je vous le rappelle, le 11 février. Aujourd'hui, nous entrons dans la catégorie environnement, Elisabeth, et vous allez nous présenter une lessive qui respecte, eh oui, l'environnement.
Eh oui, il y a près de 5 milliards de tonnes de lessive en France, et le problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une bonne lessive, bonne pour notre peau, bonne pour l'environnement, et c'est ainsi qu'une start-up qui s'appelle Les Petits Bidons a lancé une lessive française 100% respectueuse de l'environnement, respectueuse de notre peau. Elle est fabriquée à partir d'éléments naturels, biodégradables, pas de parfum. Et le produit ne peut même pas encrasser la machine à laver. C'est le produit parfait en quelque sorte.
Bah oui, si vous le dites, je vous crois. Bonjour Cyril Deves, on va essayer évidemment. C'est
bonjour,
vous le fondateur des Petits Bidons. Comment ça vous est venu cette quête de lessive efficace et respectueuse aussi de l'environnement?
Bon, en fait, l'histoire des Petits Bidons, elle a commencé il y a un an et demi à peu près, dans ma cuisine.
Oui.
En fait, dans une démarche écologique, j'ai voulu réaliser moi-même ma lessive maison. Alors, je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Il y a plein de recettes. C'est pas forcément, faut avoir le temps, faut avoir l'envie.
Ça sent Alice pas bon. Ça a tenté aussi.
Ouais, c'est pas forcément
c'est
le plus simple.
Ouais.
Et donc, c'est très bien si des gens le font. En tout cas, on pense qu'il y a des gens qui ne le feront jamais. Donc, on a voulu leur apporter une meilleure solution. Et j'ai regardé ce qui existait sur le marché. Et en fait, il y avait pas de lessive qui était totalement propre, qui avait la possibilité, en tout cas où c'était simple de connaître la liste d'ingrédients, d'avoir une liste d'ingrédients compréhensible et facile à trouver, et puis qui donnait envie, parce qu'on part aussi du principe que c'est pas parce qu'on fait des produits écologiques qu'on doit se flageller, et c'est pas une punition.
Mais alors, qu'a-t-elle de plus, votre lessive, comparée à une lessive à base de savon de Marseille ou d'une lessive écolo qu'on trouve, il y en a, hein, dans les magasins bio, qui se disent propres et bonnes pour la peau?
Alors nous, notre lessive, on a voulu le maximum d'ingrédients naturels, donc on a plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est à base d'huile d'olive, d'huile de ricin, d'huile de tournesol.
Et ça nettoie?
Et ça nettoie bien, on a fait des tests. On a
le
pas
linge,
lancé...
hein, pas
oui,
le corps.
Oui, ça nettoie bien le linge, à ne pas mettre sur le corps. Ça nettoie très bien le linge. Et en fait, la différence, la grosse différence avec la majorité des lessives, c'est qu'on n'a pas mis d'huile de palme, qui est une huile qui n'est pas chère et qui inonde le marché des lessives, avec tous les problèmes qu'on peut connaître autour de ça, même celles qui sont certifiées. Et donc voilà, donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à une formule plus propre.
Que dit notre coach?
Quand on imagine le nombre de grandes marques, de grands groupes qui sont toute la journée en train d'imaginer des recettes de lessive, est-ce que quand ils vous voient apparaître comme ça, est-ce qu'ils décrochent le téléphone, ils vous appellent tout de suite en disant on veut bosser avec vous, est-ce que vous n'êtes pas du tout dans les radars? Parce que j'imagine que c'est un
alors
peu leur métier de se poser ces questions-là quand même.
On est dans les radars, on a été très vite dans les radars. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de contact ou autre. Mais on sait, enfin moi je vois sur LinkedIn, très rapidement j'ai été suivi. Donc je sais que c'est dans les radars et je sais que c'est très suivi.
Aujourd'hui,
on est sur un gros sujet.
Aujourd'hui, vous êtes combien dans votre entreprise?
On est deux.
C'est génial.
Ça démarre. Hein. C'est fabriqué en France, on ne l'a pas dit, mais c'est important.
C'est fabriqué en France, en Provence.
Et la suite, ce sera quoi? Vous allez vous développer? Vous allez sortir d'autres références?
Alors l'idée, c'est déjà de bien réussir à introduire cette lessive en France. Mais bien sûr, l'objectif, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a encore plein de produits qui ne sont pas encore totalement propres. Et nous, on ne se pose pas de limite. On se dit que s'il y a des choses qu'on peut mieux faire sur tous les produits quotidiens, on le fera.
On commande, hein, bien sûr. On commande en ligne, c'est ça?
Oui, exactement.
Pour vous avoir.
Exactement.
Et ça coûte combien? Un bidon de lessive?
Alors,
Un
petit bidon de lessive. Alors, ça coûte... tout est disponible en ligne sur lesptitsbidons.fr. On a des abonnements et des ventes en unitaire. Le bidon coûte 12,90 €. Donc, c'est 25 lavages. C'est à peu près 50 centimes par lavage. Et voilà.
Et voilà. Et donc, on vous retrouve en ligne et vous êtes nommé dans la catégorie environnement au trophée. On se retrouvera évidemment le 11 février. Merci à notre coach d'avoir été avec nous.
On a testé la lessive sur nos slips.
Bon, je nous ferai un petit retour d'expérience. On se retrouve nous demain. Elisabeth, nous plongerons dans l'univers de la plongée, justement.
Et à demain, 13h sur Europe 1. Dans un instant, à 14h pile, tous les jours, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat et ses incroyables histoires. Aujourd'hui, une affaire criminelle. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire absolument incroyable. Je ne vous en dis pas plus. Ça s'appelle la tuerie de Flavin. Ça s'est déroulé en février 2000. C'est une histoire marquée par l'ésotérisme.
Merci Christophe. Beaucoup de suspense donc pour cette histoire que l'on va écouter très attentivement à partir de 14h.